France Culture.
Je pense pas qu'il y ait vraiment une dimension héroïque dans le personnage. Il a, c'est ça aussi qui peut être un peu touchant, c'est son côté vraiment monsieur tout le monde. C'est quelqu'un de très ordinaire en fait. Mais il me fait un peu penser d'ailleurs à ces super-héros de comics. Je pense à Spider-Man par exemple, il est piqué par une araignée radioactive je crois et tout à coup il est investi d'un pouvoir et mais dont il veut pas vraiment parce que Spider-Man il rêve juste d'avoir une vie de lycéen normal mais il a un pouvoir qui va lui donner une responsabilité très forte, qui va le séparer à la fois des autres humains puis qui va le placer un petit peu en position de surhomme. Paul Cairns, c'est un peu ça. Alors son super pouvoir, lui, il est peut-être pas très utile à la société parce qu'il est... Est-ce que c'est vraiment un super pouvoir? Il a, une forme de pouvoir. Bon, ouais, c'est assez ambigu.
Je suis tombé un peu par hasard sur l'histoire de Paul Cairns. Et comme je pense les journalistes de l'époque, j'ai été assez marqué par les titres, tout d'abord. Cet homme qui n'a pas dormi pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans. Au début, on prend ça pour un canular, on s'attache à l'anecdote. Et puis en fait, en creusant, on se rend compte qu'il y a une vraie histoire derrière. Et au-delà de l'histoire, ça raconte d'autres choses sur la société à l'époque et aussi sur la société d'aujourd'hui.
Des titres vraiment pour appâter le chaland, 22 ans sans dormir. D'un coup, je me suis dit, ah là, il y a une histoire intéressante. La journée, il est à son bureau, donc il a quasiment la vie d'un honnête bourgeois standard qui va au bureau le matin, qui en part le soir à 17h, 18h. Et puis, par contre, c'est la nuit qu'il a une vie complètement différente parce qu'il est incapable de fermer l'œil. Il est toujours à deux doigts d'être le monstre, en fait. Et peut-être que Paul Cairns, à sa petite échelle, il est ça aussi. Il est à la fois surhomme et monstre. C'est parce que c'est pas seulement un homme qui ne dort plus, c'est un homme qui ne rêve plus.
Paul Cairns, l'homme sans sommeil. Nicolas Lévy-Beff, Yvon Croisier. Premier épisode. Un homme hors du commun.
Je suis Pierre Ansery, je suis journaliste. Donc j'ai travaillé pour le site Retro News, qui est le site consacré à la presse de la Bibliothèque nationale de France. Et dans ce cadre-là, mon métier, c'est de fouiller les archives de presse et d'essayer de trouver des pépites. Et c'est dans ce cadre-là que je suis tombé sur l'histoire de Paul Cairns. Donc Paul Cairns, c'est un Hongrois qui est devenu célèbre parce que il n'avait plus à dormir à la suite d'une blessure reçue au combat pendant la Première Guerre mondiale.
Gauthier de Mouveau, vous êtes journaliste, notamment pour Ouest France et Science Critique, et l'auteur de l'article « Paul Cairns, la science déchaînée contre le sommeil ». Comment avez-vous découvert l'histoire de Paul Cairns ?
Je suis tombé un peu par hasard sur l'histoire de Paul Cairns via un billet sur Retro News, le site de la BNF. Alors, Paul Cairns, il est né à Budapest en janvier 1884. Il est issu d'une famille modeste. Son père est garçon de café, sa mère est cuisinière. C'est un élève plutôt bon puisqu'il passe le baccalauréat, ce qui n'est pas donné à tout le monde à l'époque. Et finalement, l'ascenseur social se met en place et lui, il devient employé de bureau et notamment caissier dans une banque coopérative, la coopérative de crédit et de production des artisans tailleurs de Budapest. C'est un homme tout à fait classique. Il est marié, il a un enfant. Et sa vie bascule, comme des millions d'autres, en 1914, lorsque l'archiduc François Ferdinand, qui est l'héritier de l'Empire austro-hongrois, est assassiné à Sarajevo. Et donc, lui, il est hongrois, donc ça le marque particulièrement. Et il y a la mobilisation générale. Il aurait pu attendre d'être appelé sous les drapeaux, parce qu'il a 30 ans, il a un enfant, et il devance l'appel. Il s'engage volontairement dans l'armée. Il rejoint le 19e régiment d'infanterie de la Ronde Fed, qui est l'armée territoriale royale hongroise et il est déployé à la frontière avec l'Empire russe. Il est nommé sous-lieutenant. Et donc, le 24 juin 1915, il commande sa compagnie, on l'envoie prendre les tranchées ennemies. Les soldats progressent et passent assez facilement les trois premières lignes avant de se faire cueillir par les obus et les mitrailleuses russes. Et jusqu'au moment où lui aussi, il est touché en pleine tête.
Alors c'est arrivé au front, il a été laissé pour mort après avoir reçu une blessure à la tête. On a cru qu'il était mort parce que sa carte d'identité était tombée, je crois, ou ses papiers étaient tombés sur le cadavre d'un autre soldat. Et pendant que lui était soigné, on a cru qu'il était mort et il a appris lui-même, alors qu'il était à l'hôpital, qu'on le croyait mort. Donc quelque part, il est un peu revenu d'entre les morts et c'est ça qui est intéressant. C'est aussi une dimension sur laquelle les journaux dans les années 30 vont pas mal insister. Ce côté revenu d'entre les morts, de l'enfer, de la Première Guerre mondiale.
Et là, en fonction des témoignages qu'il donne au fil des années, les versions varient. Certains journaux parlent d'une balle qu'il reçoit, qui traverse son cerveau. Il la voit, il la ramasse avant de tomber dans les pommes. D'autres journaux parlent d'une balle qui se loge dans son cerveau. Et on sera obligé de le trépaner pour enlever la balle. Et d'autres, enfin, disent que la balle est restée toute sa vie dans son cerveau. Quoi qu'il en soit, Paul Kern, il est inconscient au milieu du No Man's Land. Il est ramassé après plusieurs heures par les brancardiers. Il est inconscient. On l'emmène dans un hôpital à l'arrière des lignes. Il est dans le coma. Il restera 3 semaines dans le coma. Les médecins sont très réservés sur son sort. Finalement, il s'en sort. Il est renvoyé à l'arrière. Il se retrouve à Budapest. Il rencontre des neurologues, des chirurgiens. On commence déjà à étudier son cas. La guerre se termine. Il rentre chez lui. Il est déclaré invalide à 100%. Et finalement, ce sera revu, ça, un peu plus tard. Donc, il va devoir reprendre le travail. Il récupère son poste à la coopérative mutualiste. Et il reprend sa vie comme avant.
Jean-Yves Le Naour, vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale et du XXe siècle. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Les soldats de la honte », qui aborde le choc traumatique vécu par les soldats de la Première Guerre mondiale. Que vous inspire le cas de Paul Kern ?
Il dit quelque chose, il raconte ce moment de basculement en 14-18 avec... toute l'apparition de tous ces troubles psychiques qu'on n'avait jamais rencontrés jusque-là. Les médecins sont complètement dépassés par ces cécités hystériques, par ces paralysies d'un doigt, du pouce qui est replié dans la paume, ou simplement du bras le long du corps, ou simplement les jambes flasques, perdre la parole, perdre l'ouïe. Il y a une multiplicité des affections psychiques. Vous avez aussi les plicaturés, ceux qui se courbe en position fœtale quand ça bombarde et qui n'arrive pas à se déplier ensuite. Et donc les médecins sont confrontés à toutes ces affections et ils ne les comprennent pas. On a toujours du mal d'ailleurs à les comprendre aujourd'hui. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas finalement un trouble nerveux qui aurait été dû à une commotion cérébrale, c'est-à-dire par une explosion d'un obus qui, en décompressant dans l'air, aurait bougé le cerveau, impacté le liquide céphalo-rachidien dans lequel baigne le cerveau. Et voilà, cette espèce de vent de l'obus, comme on disait à l'époque en 14-18, ou shell shock, comme disaient les Britanniques, aurait peut-être... abîmer la région du sommeil dans le cerveau et la nécessité du sommeil. Et voilà peut-être une nouvelle race d'hommes qui est en train de surgir, un homme qui ne dort pas.
Comment furent perçus justement ces soldats particuliers après-guerre ?
Alors les soldats, les traumatisés de 14-18 étaient plutôt mal vus. Ils étaient vus comme des hystériques. Et hystérique renvoie au féminin, parce que ça vient de utérus. Donc c'est les femmes qui avaient des maladies psychiques, pas les hommes. Les hommes sont virils, ils sont forts, ils vont à la guerre. Et on n'imaginait pas que des héros qui font la guerre, des poilus virils, pourraient avoir des maladies qui relèvent finalement des efféminés, des faibles, des fragiles, des femmes. Donc ils sont mal vus. Pendant la guerre, et ils sont mal vus après la guerre. Vous savez, on les cache, c'est des secrets de famille, c'est pas des vrais blessés, si vous voulez. Des blessés nerveux, c'est des blessés sans blessure. Est-ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs simulé ? Donc, les pensions, elles sont souvent au niveau le plus faible. Et des instructions vont dans ce sens. C'est pour vous dire, donc, ils sont mal vus, ils sont complètement abandonnés, il n'y a pas eu de gestion de ces malades après-guerre. Et si vous voulez, la reconnaissance du stress post-traumatique, c'est 1992 en France. Pour l'armée américaine, c'est post-guerre du Vietnam, mais pour la France, c'est post-guerre d'Irak.
Alors les journaux vont beaucoup insister sur son mode de vie, qui est induit donc par sa condition médicale. puisqu'on apprend qu'il a été consulté des médecins viennois fameux. Il y a même une interview, je crois, où il dit que le docteur Freud, l'éminent docteur Freud, s'est intéressé à son cas. Donc ça s'inscrit aussi dans cette époque où on s'intéresse aux maladies de l'esprit, où le freudisme est en train de la psychanalyse est en train vraiment de prendre vraiment son essor, et ça s'inscrit aussi là-dedans où dans cette période où on s'interroge sur les mystères de l'esprit, sur les mystères du cerveau humain, et lui il va en parler en interview. Donc il y a cet aspect-là qui est intéressant, et puis il y a tout bonnement en fait sa vie quotidienne, comment il va faire pour continuer à vivre normalement sans dormir.
Et il reprend sa vie comme avant. Sauf que, bah voilà, il n'est plus comme avant. Depuis qu'il s'est réveillé du coma en 1915, il n'a pas fermé l'œil. Alors il essaye, hein, il explique dans les différents témoignages qu'il livre à l'époque. Il se couche, il ferme les yeux. Mais voilà, le sommeil ne vient pas et ça le fatigue plus qu'autre chose. Il passe ses nuits à se poser des questions, essayer de comprendre de quoi il souffre. Il fait les 100 pas dans son appartement. Et tout ça, ça va bouleverser sa vie, pas forcément professionnelle, puisque finalement, il garde une activité normale. Mais chez lui, sa vie privée, elle en prend un sacré coup, puisque sa femme, elle ne supporte plus ses allées et venues dans l'appartement. Il écoute la radio en pleine nuit. Elle supporte pas non plus le fait que il fasse la une des papiers scientifiques, qu'on vienne toujours le solliciter. Et donc, il divorce en 1925. Donc, il est maintenant célibataire. La nuit, il sait pas trop quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme beaucoup de gens qui sont des oiseaux de nuit, il va dans les bars, il va dans les dancings. Et il est pas tout seul, il rencontre un autre Hongrois, un pharmacien, qui souffre à peu près de la même chose, c'est ce qu'il raconte. Et tous les deux, ben finalement, ils vont s'encanailler, entre guillemets, dans les rues de Budapest. Pourtant, il ne boit pas, parce qu'il a essayé hein, de boire, de se saouler pour essayer de dormir, ça ne marche pas, et l'alcool ne lui fait rien, donc il n'en boit pas. Et son ami pharmacien se suicide, et il se retrouve tout seul.
Justement, Paul Kern est interviewé par un journaliste français de l'Excelsior, le 6 février 1933. Il raconte... J'ai soigneusement étudié ma maladie et je sais que nous sommes trois dans le monde entier qui souffrons de la même affection. Trois, non deux. Car le troisième, qui était également hongrois, le pharmacien Zekeli, s'est suicidé il y a quelques mois. Il avait eu la même blessure que moi et il ne dormit pas pendant 16 ans. C'est un ancien officier russe qui vit à Paris dont le cas est analogue au mien. Je voudrais bien le connaître car depuis la mort de Zekeli, qui était mon meilleur ami, je suis bien seul.
Et après, finalement, au fil des années, il se range, entre guillemets, il fréquente moins la vie nocturne de Budapest. Et là, il explique qu'il a rythmé sa journée. Hein. Il explique qu'il a divisé en 8 périodes. Il fait 4 pas dans la journée, 4 pas dans la nuit. Il travaille jusqu'à 16 heures par jour. Des fois, il lui arrive même de travailler pendant 72 heures sans s'arrêter. Il va se faire une culture générale exceptionnelle. Il va apprendre l'anglais et le français. À travers seulement les journaux qui viennent de l'étranger. Il écoute la radio aussi, il parle de notamment Radio Londres, qui diffuse la nuit de la musique qui lui convient bien, la musique de danse, comme il dit. Et puis les médecins lui disent aussi de se ménager, alors c'est facile à dire, mais ils lui donnent comme conseil de s'allonger au moins 2 heures par nuit avec des lunettes noires pour voilà se calmer. Mais il explique que s'il passe plus de 2 heures par nuit allongé, et le lendemain, il ressent de la fatigue. Et finalement, c'est plus compliqué qu'autre chose. Et donc, il n'arrête jamais de penser. C'est ce qu'il dit. Il est toujours en train de penser. Et donc, il lit, il écoute la radio, il occupe son temps et il explique qu'il est l'homme le mieux informé d'Europe parce que voilà, il a le temps. Il a 2 fois plus de temps pour lire et se faire une éducation et des connaissances.
En fait, il se confie à Paris Soir, le 4 mai 1938. Le soir, je rentre chez moi et je me retire dans mon bureau. Là, je lis les journaux. J'en ai un grand nombre. D'abord, tous les jours, j'achète tous les journaux hongrois. Outre cela, je suis abonné à plusieurs grands journaux français et anglais car je connais ces langues à fond. Ensuite, j'écoute la TSF. Le plus souvent, je prends le poste de Londres qui donne de la musique de danse. Pendant ce temps, je m'efforce de me détacher de tout et de ne penser qu'à des choses sans importance, indifférentes. C'est terrible, imaginez que je réfléchis sans arrêt. Les idées vont et viennent et je dois faire effort de volonté immense pour reposer mon cerveau. À ce propos, je lis chaque jour un chapitre de la Bible, particulièrement les psaumes de David. et je me les récite, c'est la seule lecture qui me procure une détente, un apaisement aussi bien moral que physique. La Bible est ma seule consolation qui m'aide à supporter mon infirmité. Marie Dariussecq, vous êtes écrivaine mais aussi psychanalyste. Vous êtes l'autrice de nombreux romans et récits, dont Pas dormir, dans lequel vous retracez votre expérience d'insomniaque. Qu'est-ce que ça signifie être insomniaque ?
Alors, il y a autant d'insomnie que d'insomniaque. Moi, je sais qu'il faut que je dorme un peu pour pas perdre complètement la boule. Mon problème, c'est que je ne dors pas aux horaires où on est censé dormir. On m'a mis des électrodes un peu partout, et donc le diagnostic qui est tombé, c'est hypervigilance. Moi, c'est ça, mon insomnie. Je suis hypervigilante, donc je n'ai jamais de sommeil profond. Je reste toujours à la surface du sommeil. J'attends que la catastrophe arrive. Mon sommeil, c'est ça, en fait. Et on peut l'analyser de mille façons. Une des raisons pour laquelle j'ai perdu le sommeil, c'est parce que j'ai eu des enfants. Et apparemment, c'est assez fréquent. Parce que quand le bébé finit par faire ses nuits, ben, le parent les a perdues, les nuits. J'ai jamais retrouvé ma tranquillité. Je suis plus jamais tranquille pour dormir. Mais cette angoisse m'a jamais quittée. Et j'ai l'impression que si je m'endors, il va leur arriver malheur. Et c'est presque de l'ordre de la superstition. Après, il y a toutes sortes d'autres insomnies. Il y a des insomnies de l'endormissement, des insomnies du réveil nocturne, des insomnies des jambes agitées, des insomnies de l'apnée du sommeil, toutes sortes d'insomnies. Des insomnies d'angoisse, des insomnies de dépression, des insomnies de joie aussi, des insomnies d'excitation, des insomnies de frustration, des insomnies... qu'est-ce qu'on fout là sur cette planète, voilà.
Paul Kern a eu beaucoup de soucis dans sa vie affective. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que de vivre avec un insomniaque ?
Quand on est insomniaque, il faut épouser un insomniaque ou au contraire un très 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 bon dormeur. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un insomniaque marié. Il fait une vie impossible, ou elle, dans mon cas, fait une vie impossible à ses proches. Parce qu'un insomniaque qui vient de s'endormir, il ne faut surtout pas le ou la réveiller. Donc mon mari est très insomniaque, il n'a pas du tout la même insomnie que moi, on ne se réveille pas aux mêmes horaires, donc on ne dort pas dans le même lit, c'est aussi simple que ça, sinon on aurait divorcé 10 fois.
Paul Klotz, vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes l'auteur d'un texte qui s'appelle « Le sommeil, la lutte sociale du siècle ». Qu'est-ce que vous inspire le cas ou l'histoire de Paul Kern ?
L'histoire de Paul Kern me paraît avant toute chose extraordinaire, parce que le sommeil représente à peu près un tiers de la vie humaine, et l'idée qu'un homme n'ait pas pu dormir pendant plusieurs décennies me paraît tout simplement incroyable.
Dans l'Excelsior du 6 février 1933, il dit un journaliste « Je ne peux pas me coucher, car il n'y a rien de plus atroce que de se trouver dans un lit et de ne pouvoir dormir. Ma femme m'a quitté, car la nuit, je me promenais dans l'appartement, et en outre, la pauvre femme était terriblement gênée par la publication fréquente de ma photographie dans des revues médicales, accompagnant des articles écrits par les plus célèbres médecins de l'Europe centrale. »
Je pense qu'on a là l'illustration d'un double phénomène. Paul Kern a été présenté comme une bête de foire parce qu'il a nourri tous les fantasmes d'une vague scientifique qui, à ce moment-là, cherchait à s'émanciper complètement des contraintes physiologiques. Et puis, à côté de ce phénomène de bête de foire, on voit aussi que Paul Kern est ici quelqu'un dont la vie personnelle est complètement détruite, réduite à néant. Si sa femme l'a quitté, soi-disant parce qu'il était très affiché dans les médias, on peut aussi établir l'hypothèse qu'il l'a quitté parce que il ne pouvait plus passer de moments partagés ensemble, en tout cas pour un tiers de leur vie. J'imagine que ce sont autant de confidences en moins sur l'oreiller, autant de relations charnelles en moins, autant d'expériences et de souvenirs partagés. On voit aussi en ce sens, et c'est une dimension trop peu souvent exposée, que le sommeil est en soi un facteur de sociabilité et d'intégration dans le monde.
Dans l'Excelsior du 6 février 1933, il ajoute « Si je pouvais seulement trouver une jeune fille qui veuille se marier avec moi, car croyez-moi monsieur, perdre le sommeil et les rêves, ce n'est rien, mais la solitude, voilà ce qui est mortel. »
Voilà, je pense que ça démontre clairement que le sommeil est nécessaire à la sociabilité, que c'est une partie à part entière de la vie humaine, et que sans sommeil, on sort de la société des hommes, au fond.
« je pouvais seulement trouver une jeune fille qui veuille se marier avec moi. Car croyez-moi, monsieur, perdre le sommeil et les rêves, ce n'est rien, mais la solitude, voilà ce qui est mortel.
Oui, oui, oui. Bah, effectivement, il préfigure peut-être un petit peu une espèce de d'ultra-moderne solitude aujourd'hui. C'est vrai qu'en entendant ça, je me demande si on n'est pas tous un peu des Paul Kern le soir quand on regarde nos smartphones et qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil. Ouais. Je pense que ça m'a renvoyé peut-être moi-même à des angoisses qu'on peut avoir. Des angoisses de liées à la solitude, liées à notre place en fait dans la société. Pourquoi on est là? Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est seul, en fait. Et c'est ça qui va transparaître le plus. C'est cette espèce d'immense solitude. Et je pense que là, il y a quelque chose où on peut se retrouver, nous, aujourd'hui. Je pense qu'il est confronté aussi à un espèce d'immense vide. C'est ça aussi qui est terrible dans son histoire. C'est qu'il n'a pas ce repos, il n'a pas ce sanctuaire qu'est le lit, le confort de se dire... C'est la dimension qui est presque un peu terrifiante, en fait, dans son histoire. C'est qu'il n'a pas ça, il n'a pas cette espèce de repos quotidien auquel on a tous droit. C'est quand même quelque chose, c'est quand même un droit inaliénable en fait. On se rend compte, le droit au sommeil, et lui ne l'a pas. Et ça doit vraiment être terrible en fait, de rester au bureau toute la journée et encore après, et parfois d'y passer la nuit même, je crois, il dit, parce que il a rien à faire chez lui. Il va pas se mettre dans son lit et regarder le plafond pendant 8 heures. Du coup, il reste. Il est terrifié, je pense aussi, par l'idée de s'allonger. Alors, est-ce que c'est purement médical, donc lié à sa blessure? Ça, c'est difficile à dire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part psychosomatique? Parce que c'est aussi une histoire qui nous parle d'un moment où il y a des millions d'hommes qui ont vécu la guerre, qui ont vécu cet enfer-là, et qui sortent tous avec des troubles de stress post-traumatique, en fait. Toute la période de l'entre-deux-guerres, elle est énormément marqué par cette question des traumas de guerre, des gueules cassées, voilà. Et lui, Paul Kern, lui, s'inscrit aussi énormément dans cette histoire-là. Et ses souffrances, elles sont aussi liées à la guerre, en fait, tout simplement. C'est des souffrances traumatiques.
Le gouvernement hongrois lui a réduit sa pension de militaire. Parce que comme il est un blessé qui n'est pas visible, ils ont estimé qu'il allait bien. Et lui, il en a pris vraiment ombrage. Je suis un combattant.
Oui, c'est une victime de la Première Guerre mondiale. On a beaucoup parlé des gueules cassées, des gens qui ont souffert de troubles traumatiques. Alors lui, son trouble n'était pas visible. Au début, on le présente comme quelqu'un qui n'a pas de soucis à part qu'il ne dort pas. Mais quand on se penche sur son cas et qu'on voit au fil des années comment il est décrit par la presse et ce qu'il dit, il a des maux de tête, il a des vertiges. Il arrivera à se remarier en 1934. Il aura 3 enfants, mais sa femme dit que voilà, c'est pas facile de vivre avec lui, qu'avoir un mari qui s'en va à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et qui peut partir parfois pendant 72 heures, c'est compliqué à vivre au quotidien. C'est une victime, une de plus de la Première Guerre mondiale.
Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu. Quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux.
Est-ce que son mystère a été élucidé?
Non, alors il y a des théories. Je crois que la médecine moderne considère en fait qu'il est impossible de ne pas dormir. Alors il est possible que Paul Kern en fait ait vécu des micro-périodes de sommeil, dont peut-être lui-même n'avait même pas conscience, qui duraient peut-être quelques secondes, quelques minutes. Ça reste un mystère, ça reste une question qui n'est pas vraiment élucidée et... C'est une histoire qui garde quand même sa part de mystère.
Il disait même dans un journal hongrois, « Certains voulaient m'exhiber dans un cirque. J'ai naturellement refusé cette proposition de la manière la plus catégorique. On m'a même invité à faire un tour du monde et à donner des conférences sur moi-même, sur ce miracle. J'ai également refusé. Je ne veux pas me montrer. Je ne veux pas non plus que les gens parlent de moi. Je vis calmement et tranquillement. Je n'attends rien de la vie.
Mais il y a chez lui une aspiration à la normalité, en fait. Il aimerait rentrer dans le rang, il aimerait ne pas être défini par ça.
Je suis comme un aveugle qui a perdu la vue dans son enfance, ne se souvient plus des couleurs et conserve seulement l'impression agréable qu'il aurait à les voir. Je ne sais vraiment plus ce qu'est dormir, je ne connais plus ce qu'est un rêve. Je m'efforce parfois en vain de retrouver cette sensation. Mon imagination n'est pas assez forte pour la faire revivre. Peut-être dans la tombe trouverai-je le sommeil.
Oui, c'est assez beau. Je pense que ça touche aussi à... Le rêve est à la mode hein, à cette époque-là, dans les années 20-30, parce qu'il y a les surréalistes. Donc là, on est aussi sur peut-être une dimension peut-être un petit peu plus poétique ou justement anti-poétique de la condition de Paul Kern, qui est voilà, cette question est-ce qu'on peut vivre sans rêver ? C'est parce que c'est pas seulement un homme qui ne dort plus. C'est un homme qui ne rêve plus. Et là, on touche, je pense, à quelque chose d'assez profond dans notre humanité. Qu'est-ce que c'est de ne plus avoir cette échappée, oui, poétique, dans le monde des rêves ? Quel est l'intérêt, en fait, de se débarrasser de ce qui fait nous des humains, de cette part poétique, cette part mystérieuse, en fait ?
Marie Dariussec, vous ne courez plus après le sommeil ?
D'abord, j'ai jamais couru après le sommeil. J'ai essayé d'être disponible au sommeil. J'ai essayé de le laisser venir, lui, de le laisser venir tranquillement. Je parle comme un magazine de développement personnel, mais c'est la sagesse même de dire qu'il faut préparer la venue du sommeil au moins, enfin, quelques heures avant. Enfin, j'ai appris quand même mieux qu'avant à m'endormir, mais je me réveille. La terreur, c'est ces réveils récurrents à 4h, 4h44. 3h33, les Allemands appellent ça les heures schnapps, les heures où on voit même pas double, on voit triple. 2h22 encore, on peut espérer se rendormir, mais 4h44, c'est mort en fait. 5h55, on se lève évidemment, mais si on s'est endormi à 2h du matin, c'est pas du tout suffisant, c'est ça le problème.
Je ne sais vraiment plus ce qu'est dormir, je ne connais plus ce qu'est un rêve, je m'efforce parfois en vain de retrouver cette sensation, mon imagination n'est pas assez forte pour la faire revivre. Peut-être dans la tombe retrouverai-je le sommeil.
Il y a la bonne vieille phrase « Tu dormiras quand tu seras morte » que je me dis parfois. Je ne sais pas si c'est une phrase très réconfortante. Moi, j'ai un peu du mal avec votre Paul Kern. Je pense qu'il dormait au moins 2-3 heures par-ci, par-là. Sinon, il serait mort. Donc, après, c'était peut-être un mythomane absolument génial.
Un homme hors du commun, avec Pierre Ancelin, Gauthier Demouveau, Marie Dariussec, Jean-Yves Le Naour, Paul Klotz. Coordination, Emmanuel Laurentin. Chargé de programme, Sandrine Chaperon. Paul Kern, L'homme sans sommeil, un documentaire de Nicolas Lévy-Beff, réalisé par Yvon Croisier.